Bonjour, aujourd'hui c'est Vendredi Saint et dans 3 jours ce sera Pâques. Ce sont là les quelques jours fondateurs pour la foi chrétienne. Sans eux et les événements qui s'y sont déroulés en leur temps, la foi serait au mieux une philosophie de l'existence, au pire une vaine illusion. La pandémie et les mesures sanitaires dans notre pays nous obligent à garder nos portes closes ou entrouvertes à quelques 15 personnes au maximum. Alors nous, les pasteurs du Brabant francophone de l'Église protestante unie de Belgique, nous nous sommes unis pour vous présenter 2 célébrations en podcast. Dimanche, ce sera celle de Pâques, et en ce jour, une lecture à plusieurs voix de la Passion. Ce seront successivement Luc Loukoussa, pasteur à Uccle, Isabelle de Tavernier, pasteur à Bruxelles Botanique, Émile Carp, pasteur à Wavre, Jonathan Mbatso, pasteur à Nivelles, et enfin Jean-Pierre Delaterre, pasteur à Écossine, qui vous mèneront dans la méditation et la prière. Quant à moi, Bruno Jousselin, pasteur à Bruxelles Musée, j'assurerai la lecture de la Passion d'après l'Évangile de Marc, aidé en cela par Fabienne. Vous pouvez aussi suivre cette lecture célébrante dans sa version PDF, et par ailleurs, vous y trouverez les paroles des 2 chants. Bienvenue donc à chacun, chacune qui nous écoutait, et entrons sans plus tarder dans cette lecture de la Passion. Après l'arrestation de Jésus au matin de Gethsémané et son premier interrogatoire durant la nuit, alors que Pierre l'a renié 3 fois. Au matin de bonne heure, les chefs des prêtres avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le tribunal religieux pour prendre une décision. Jésus attaché, emmené, livré à Pilate. Pilate à Jésus.
Est-ce que tu es le roi des Juifs ?
Jésus.
C'est toi qui le dis.
Les chefs des prêtres accusent Jésus de beaucoup de choses. Pilate, encore à Jésus.
Tu ne réponds rien ? Tu entends tout ce qu'ils disent contre toi ?
Mais Jésus muet, plus rien, et Pilate très étonné. À chaque fête de Pâques, Pilate libère un prisonnier, celui que la foule veut. Un homme appelé Barabbas est en prison avec ses camarades. Ils ont tué quelqu'un quand ils se sont révoltés contre les Romains. La foule arrive chez Pilate. Les gens se mettent à lui demander
« Fais pour nous ce que tu as l'habitude de faire. »
Pilate leur répond
« Est-ce que vous voulez que je vous libère, le roi des Juifs ?»
En effet, Pilate le sait bien, les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres poussent la foule à dire
« Libère-nous, Barabbas !»
Pilate leur demande encore
« Qu'est-ce que je vais donc faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?»
Ils répondent en criant
« Cloue-le sur une croix !»
Pilate leur dit
« Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ?»
Mais ils crient encore plus fort
« Cloue-le sur une croix !»
Pilate veut faire plaisir à la foule. Il leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet. Puis il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix.
Frères et sœurs, les Écritures nous disent que Jésus doit mourir et donner sa vie en rançon, selon les Écritures, pour notre salut. Alors, sa présence révèle le fond du cœur humain, selon la prophétie du vieux Siméon, qui disait en substance « Cet enfant sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans les cœurs de beaucoup. » C'est ce qu'il va faire devant les 3 acteurs du récit que nous avons entendu. Il y a les chefs religieux, en premier. Depuis le début du ministère public de Jésus, les chefs religieux n'ont cessé de manifester leur haine à l'égard de Jésus. Comme ils les gênent, sa mort est déjà décidée, il faut seulement trouver le moment favorable et la manière. Mensonges, manipulations, corruption, tous les vils moyens seront sollicités afin de faire périr Jésus. Dans leur hypocrisie, ils soignent des apparences alors que leur fond est vraiment mauvais. Ils craignent la poussière de la maison d'un païen alors même qu'ils sont remplis de haine envers Jésus. Et c'est avec un tel état d'esprit, haineux et hypocrite, qu'ils vont fêter la Pâque. Ils leur ressemblent tous ceux qui aujourd'hui sont sûrs de détenir la vérité, ceux qui soignent les apparences de piété, mais qui, dans le fond, entretiennent hypocrisie, haine, animosité, division, racisme, orgueil, calomnie, médisance, et j'en passe. Il y a un chef religieux qui bien souvent sommeille en moi. Deuxième personnage, c'est Pilate. Pilate représente le pouvoir politique. Il s'est très vite rendu compte, dès le commencement, de l'innocence de Jésus. Il veut le libérer, mais n'ose pas le faire. Du reste, dans l'imaginaire collectif, le souvenir de Pilate est attaché au manque de courage et au refus de prendre ses responsabilités. Oui, Pilate a accepté la mort d'un juste et s'est déclaré lui-même innocent en se lavant les mains. Cela n'est-il pas représenté comme l'exemple même de la lâcheté et de l'hypocrisie? Il cède à la pression de la foule et à la pression du pouvoir religieux. Il préserve ainsi son confort et sa place. Le manque de courage pour la vérité ne fait-il pas de nous des disciples de Pilate? Il y avait la possibilité d'apprendre la vérité, mais il n'a pas saisi l'opportunité en or qui lui était offerte par celui qui s'appelle la vérité. Troisième personnage, mais un groupe celui-là, c'est un conglomérat de personnes aux intérêts variés, aux aspirations diverses, sans personnalité, facilement influençables. Cette foule a très vite fait d'oublier tout le ministère de bienfaisance de Jésus auprès des hommes et des femmes. Elle n'a pas tout vu ce que Jésus a fait, mais elle a au moins entendu parler de tout ce que Jésus a accompli en Galilée et en Judée. Cette foule s'est montrée ici très déterminée, remplie de haine et de violence. Elle a préféré la libération d'un criminel, Barabbas, à celle d'un homme de bien, d'un innocent, Jésus. Il y a un chef religieux, un Pilate, et une foule qui sommeille en moi, et c'est Jésus qui met tout cela en lumière, par sa seule présence. Prions. Seigneur, gloire, honneur et puissance à toi, le Seigneur d'amour, qui n'a reculé devant rien pour notre salut. Tu nous as aimés, tu nous as délivrés de nos péchés par ta mort sur la croix. Seigneur, comme les chefs religieux, il m'arrive de soigner les apparences et de trahir la vérité. Il m'arrive d'être plus soucieux des apparences que du fond. C'est-à-dire que j'entretiens les œuvres de la chair, jalousie, haine, mensonge, division, querelle, etc. Aie pitié de moi. Amen.
Les soldats amènent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la troupe. Pour se moquer de Jésus, ils lui mettent un vêtement en beau tissu rouge, ils tressent une couronne avec des branches épineuses et ils la posent sur sa tête. Puis ils se mettent à le saluer en lui disant
« Salut, roi des Juifs !»
Ils le frappent sur la tête avec un roseau, ils crachent sur lui, ils se mettent à genoux pour s'incliner jusqu'à terre devant lui. Quand ils ont fini de se moquer de lui, il lui enlève le vêtement rouge, il lui remet ses habits, ensuite il l'emmène dehors pour le clouer sur une croix.
À entendre ces mots terribles, nous ne sommes pas que dans le palais de Pilate au 1er siècle de notre ère. Cette scène de l'avilissement se répète malheureusement inlassablement dans bien des prisons du monde, dans bien des cachots sordides où des hommes prennent plaisir à torturer, humilier, défigurer celui ou celle qui leur a été livré en pâture. Parce qu'il a dénoncé l'orientation du gouvernement, parce qu'elle a réclamé plus de démocratie, parce qu'ensemble ils ont espéré plus de justice pour leur peuple et de respect des droits de chacun chacune, les voilà violentés, écrasés, broyés. Passion d'hier, passion d'aujourd'hui. Lâcheté des soldats romains d'hier, lâcheté des sous-fifres d'aujourd'hui. Manque de courage de toutes celles et ceux qui, par manque d'éducation, d'esprit critique, de formation du cœur et d'esprit à distinguer le bien du mal, acceptent l'intolérable. Alors, ils et elles obéissent aveuglément aux ordres reçus, sans état d'âme. Comme il est facile de se liguer à plusieurs pour s'en prendre à un seul, à une seule. Comme il est facile de se moquer de celui ou celle qui n'a aucun moyen de se défendre. Jésus, pris dans l'arène fermée du prétoire, piégé à l'intérieur de cet espace clos où se défoulent des soldats en manque d'adrénaline. Un Jésus jouet des soldats qui laissent libre cours à leurs pulsions en toute impunité. La moquerie, l'humiliation ont toujours droit de citer parmi nous et ont pris des formes nouvelles telles le harcèlement, qu'il soit moral, sexuel ou sur les réseaux sociaux. Avilir, dénoncer, rabaisser celui ou celle qui ne me revient pas, dont les choix de vie et d'engagement, les prises de position sociopolitique ou l'orientation sexuelle ne me conviennent pas. Attirer dans un traquenard virtuel ou réel, insulter, accabler et au final écraser l'autre incapable de pouvoir faire face pour se défendre ou revendiquer son identité autre. Ah oui, bien souvent, l'agresseur est invisible, impalpable, anonyme, donc lâche. À quel déferlement de haine assiste-t-on encore aujourd'hui? Quand l'humain apprendra-t-il la valeur inestimable de l'autre différent? L'humiliation du Christ, l'avilissement de celui qui est fils de Dieu, par quelle voie insondable le Père a-t-il voulu faire passer son Fils? C'est ce qu'Ésaïe annonçait à propos du serviteur souffrant, texte que le lectionnaire nous a fait entendre dimanche dernier, en Ésaïe 50. Il fallait que le Christ passe par là. Quel mot terrible ce « il fallait » Sauf que le Christ ne s'y est pas soumis par fatalisme, par obéissance aveugle, mais par engagement, par fidélité à cette grâce et à cet amour qui ont marqué tout son ministère. Cet amour et cette grâce se donnent à voir dans la lente descente, dans l'enfer de ce que l'humain est capable de concevoir comme horreur. Le Christ, qui est bafoué, accablé, écrasé, avili, est icône de tous nos frères et sœurs en humanité, qui croient en une humanité plus juste, plus tolérante, plus égalitaire, plus respectueuse des minorités, et qui en paient le prix fort. Pensons à nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, à tous les résistants aux régimes dictatoriaux de Biélorussie, de Birmanie, de Chine, de Hong Kong et j'en passe. Ils ne lâchent rien de leurs engagements ou de leur foi. Par fidélité à leurs idées, par amour de leur idéal, par courage, par passion. Le Christ bafoué est à leur côté et il les associe dès à présent, dans la douleur de leur passion, à sa résurrection. Prions. En ce jour de Vendredi Saint, nous te prions, notre Dieu et Père, pour tous tes enfants torturés, violentés, humiliés. Nous te prions aussi pour tous les acteurs de ces actes sordides, les bourreaux, les tortionnaires et les commanditaires de ces actes qui visent à la déshumanisation de tes enfants. Que ton esprit ravive au cœur de chacun, victime et bourreau, la conscience du prix infini de toute vie, appelée à rendre compte de la richesse de ta diversité. Nous te prions pour nos sociétés ultra connectées, dont les failles permettent le déferlement de la lâcheté et de la haine gratuite. Que ta sagesse, ton amour et ta grâce nous accompagnent. Amen.
Un homme de Cyrène appelé Simon, le père d'Alexandre et de Rufus, passe par là en revenant des champs. Les soldats l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils conduisent Jésus à un endroit appelé Golgotha,
le lieu du crâne.
Ils veulent lui faire boire du vin mélangé avec de la myrrhe, mais Jésus n'en prend pas. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements, puis ils les partagent entre eux. Il est 9h du matin quand ils le clouent sur la croix. Il y a une pancarte qui indique pourquoi Jésus est condamné. Dessus,
le roi des Juifs.
Les soldats clouent aussi deux bandits sur des croix, à côté de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête. Ils insultent Jésus en disant
« Hé, tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. »
De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquent de Jésus. Et ils se disent entre eux
« Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Maintenant, le Messie, le roi d'Israël, n'a qu'à descendre de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. »
Et ceux qu'on a cloués sur la croix, à côté de Jésus, l'insultent aussi.
Devant la croix où Jésus est cloué, se trouvent tout d'abord les soldats. Ils ont fait leur job, partagent ses vêtements et proposent à Jésus de boire un peu de vin, mais il refuse. Devant la croix passent les habitants de Jérusalem et les pèlerins venus de loin. Certains avaient crié « Hosanna » lors de son entrée triomphale. D'autres, 3 ans plus tôt, avaient entendu Jésus affirmer qu'il allait détruire le temple pour le reconstruire en 3 jours. Ils se moquent de Jésus en lui demandant de se sauver lui-même. Puis, devant la croix, les principaux sacrificateurs tirent leur conclusion hâtive « Il ne peut se sauver lui-même ». Conclusion autant hâtive que fautive, car Jésus a affirmé qu'il pouvait demander à Dieu son Père d'envoyer une vaste armée d'anges pour le délivrer. Et nous, devant la croix, comment réagissons-nous? Me serais-je trouvé parmi les soldats, parmi la foule ou parmi les sacrificateurs, tous contents d'être débarrassés de Jésus? Attention, certains sont restés jusqu'au bout et ont changé leur conception des choses. D'abord le brigand qui, après s'être moqué de Jésus, implore sa grâce. Puis le centurion romain qui se rend compte que quelque chose le dépasse et affirme que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Puis, après sa résurrection, les femmes qui l'accompagnaient et les disciples ont cru en lui. Car, en ne se sauvant pas lui-même de la croix, Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Seigneur, aujourd'hui, devant ta croix, tel que je suis, je crois. Je vous invite à chanter le cantique bien connu, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Que l'appel qui vient de la croix nous amène aujourd'hui à croire en son sacrifice.
Thank you.
dans tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Jésus d'une voix forte.
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Parmi ceux présents,
il appelle Élie.
L'un d'eux en courant, une éponge dans du vinaigre, l'éponge au bout d'un roseau à Jésus pour boire.
Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix.
Mais Jésus, un grand cri, et il meurt. Le grand rideau dans le temple, en deux morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. L'officier romain en face de Jésus voit comment la mort...
Vraiment, cet homme était fils de Dieu.
Quelques femmes aussi, là, de loin. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, le jeune, et de José, et Salomé. Suivi Jésus, servi Jésus en Galilée, et beaucoup d'autres femmes avec lui à Jérusalem.
Notre Seigneur est cloué sur la croix depuis 9 heures du matin, et sa longue agonie est loin d'être finie. Il est midi, les rideaux s'ouvrent sur la dernière scène, une scène si terrible que le ciel est anormalement assombri. Cette nuit qui tombe sur toute la terre 3 heures durant est une allusion au prophète Amos, chapitre 8, verset 9. Ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je vais faire descendre le soleil à midi et assombrir la terre en plein jour. Il semble que même la nature ne pouvait pas supporter de regarder ce qui se passe. Les ténèbres remarquables montrent l'agonie de la création elle-même dans la souffrance du Créateur. C'est aussi un signe eschatologique signifiant le jugement de Dieu sur toute la terre. À 3 heures de l'après-midi, Jésus pousse ce terrible cri. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Derrière ce cri, il y a un mystère que nous avons du mal à pénétrer. Jésus connaît déjà dans sa vie des grandes souffrances, tant physiques qu'émotionnelles. Mais jamais il n'a connu la séparation avec son Père. La veille, alors qu'il priait dans le jardin de Gethsémané, le Sauveur appréhendait déjà ce moment avec beaucoup d'angoisse. Il n'y a pas de mots suffisamment forts pour décrire ce à quoi Jésus fait face en cet instant. Si ce n'est le terme mort, la mort absolue. En tant qu'agneau de Dieu, Jésus est livré par le Père et par lui-même comme rançon pour le péché de l'humanité, pour mon péché et pour le vôtre, cher auditeur. Chargé du péché et de toutes les fautes de nous tous, il est seul, abandonné de tous et surtout de Dieu, son Père. À notre place, le Sauveur subit en cette heure le sort réservé aux pécheurs que nous sommes. Le rejet éternel, loin de la face de Dieu, loin de toute lumière, dans les ténèbres du dehors, où il n'y a que pleurs et graissements des dents, la deuxième mort, la mort éternelle. Et tout cela, afin que quiconque croit en lui n'ait jamais à passer par là. Nous sommes ici au cœur de l'Évangile. Après ce terrible cri, le Sauveur pousse un deuxième cri et il meurt. La plupart des victimes des crucifixions passaient leurs dernières heures dans l'épuisement complet ou l'inconscience avant la mort. Pour notre Sauveur, c'est différent. Bien qu'extrêmement torturé et affaibli, il est conscient et capable de parler jusqu'au moment de sa mort. Il contrôle la situation parce que c'est de lui-même qu'il donne sa vie et personne ne peut la lui ôter. Il a reçu de son Père le pouvoir de la donner et de pouvoir la reprendre. L'évangéliste Jean nous révèle la teneur de ce dernier cri. Tetelestai, en grec antique. Tout est accompli, fini, achevé. Ce mot ancien signifie payé en totalité. C'est le cri du vainqueur parce que Jésus a payé en totalité la dette du péché que nous devions. Le grand rideau du sanctuaire en deux morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. Par le sang de Jésus, l'accès au trône de la grâce est accordé librement à tous. L'officier romain en face de Jésus a déjà vu beaucoup de gens crucifiés, mais il voit dans la mort de Jésus quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. De son cœur, de sa vision, il sort une confession jamais proclamée dans cet évangile de Marc. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Seule la croix de Jésus-Christ parle directement au cœur des humains. Cet officier païen n'a plus de doute sur ce qui est Jésus le crucifié. C'est des bons augures pour l'avenir très proche, l'ouverture de l'évangile aux non-juifs. En ce moment difficile, tous ceux qui étaient pressentis à soutenir Jésus l'ont abandonné. Cependant, Marc révèle les disciples les plus fidèles. Ce sont toutes des femmes. Déconcertées et submergées de chagrin, ces femmes ne peuvent rien faire. Mais par leur présence, elles manifestent leur amour pour leur maître dans son moment le plus sombre. Seul l'amour peut nous attacher au Christ, quelles que soient les circonstances. Ces femmes serviront remarquablement de témoins de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. Bonne fête de semaine sainte à chacun et à chacune. Amen.
Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
Le soir déjà là. C'est le jour pour préparer la fête, le jour avant le sabbat. Joseph, de la ville d'Arimathée, un notable du tribunal religieux, attend lui aussi le royaume de Dieu. Courageusement va chez Pilate, demande le corps de Jésus. Pilate, étonné, Jésus déjà mort, fait venir l'officier romain.
Mort depuis longtemps ?
L'officier romain le renseigne. Et puis Pilate permet à Joseph de prendre le corps de Jésus. Joseph achète un drap, des cendres, le corps de la croix, l'envelopper dans le drap, le mettre dans une tombe, dans le rocher, ensuite rouler une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent l'endroit où on met Jésus.
Entre la mort du Christ sur la croix et sa résurrection au troisième jour, il y a l'épisode rapporté en quelques versets du sort réservé au corps du Seigneur. Il s'agit du dernier épisode de la Passion du Christ. Quelques détails qui nous sont rapportés par les quatre évangélistes et qui nous font découvrir la personne de Joseph d'Arimathée, qui était sensible à la prédication du Christ, puisque dans la très courte présentation qui nous en est faite au verset 43, il est précisé que c'était un membre éminent du conseil et qu'il attendait lui aussi le règne de Dieu. C'est pourquoi il est attentif au sort qui sera réservé au corps du Seigneur. Sous le régime romain, Les corps des crucifiés étaient livrés aux bêtes sauvages ou placés dans une fosse commune, alors que les Juifs attachaient de l'importance à l'enterrement, et même pour les malfaiteurs qui étaient crucifiés. On devait les détacher et les ensevelir avant le coucher du soleil précédant le sabbat. C'est tout le sens de la démarche de Joseph d'Arimathée. Et probablement que sa qualité de membre du conseil a dû lui ouvrir un accès plus facile auprès de Pilate qu'il va trouver pour récupérer le corps de Jésus. Mais en même temps, on peut penser que ça n'a pas été une démarche facile pour ce notable d'aller réclamer le corps d'un crucifié. La démarche de Joseph d'Arimathée sert peut-être aussi à mettre en avant l'injustice commise à l'égard de ce condamné, Jésus-Christ, qui a été injustement exécuté. Ces quelques heures qui viennent prolonger la crucifixion et la mort de Christ sont importantes pour ce qui va suivre. Car, en effet, comment aurait-il été possible de décrire, de raconter le matin de Pâques sans être passé par cet épisode de la mise au tombeau? Il était nécessaire de traiter le corps du Seigneur avec dignité et respect en vue de la résurrection. Comment faire apparaître l'image de la résurrection au travers d'une fosse commune, montrer le corps vivant du Seigneur après avoir été visité, touché par des chiens errants? Il était indiqué que cette mesure de temps se passe dans la dignité. Et pour cela, un homme s'est révélé par son audace, par son courage, par une volonté certaine. Un homme qui n'a pas hésité à faire appel à son courage pour aller trouver Pilate, s'exposer aux représailles du peuple. Il est allé reprendre le corps de Jésus. Il a acheté un linceul. Beaucoup d'attention donc avant de transporter le Seigneur et le faire reposer dans un sépulcre. Oui, on peut dire que Joseph d'Arimathée a permis de donner un cadre au récit de Pâques. Et au-delà, il est pour nous un exemple. Par son geste, par son action, son attention pour et autour de ce corps sans vie, Joseph d'Arimathée nous donne à nous aujourd'hui une leçon. Comment redonner de la dignité à un corps sans vie? Dans une société où on a beaucoup d'égards pour les bien-pensants, pour les bien-portants, les gens efficaces, rentables, performants, les personnes qui occupent une position en vue, les riches, etc. Ce message nous rappelle notre devoir à l'égard de ceux qui sont parfois, souvent même, considérés comme inutiles, gênants, pas intéressants, les personnes souffrantes, handicapées, les gens sans grande formation, les vieillards, les pauvres, les laissés pour compte. Voilà un message pour chacune et chacun de nous aujourd'hui. Que cet exemple de Joseph d'Arimathée qui prend soin du corps sans vie de Jésus, qui lui redonne de la dignité, soit pour nous un exemple à suivre de nos jours, où tant de personnes sont sans vie, sans espoir, sans avenir, sans joie, que Dieu nous donne d'être à leur côté une lueur d'espérance, une source de réconfort capable de faire renaître de la dignité là où il n'y a que tristesse, désespoir, haine ou mépris.
La suite, dans 3 jours au matin de Pâques. Entre-temps, c'est le mystère, ce secret que nous n'arriverons jamais à percer. Pourtant, nous aimerions bien. Mais non, il n'y a pas de preuve pour dire que, ou le contraire, il y a juste le silence qui déclôt. Nous n'avons que la foi qui nous ouvre à la libération et à l'espérance. Et ça, ce n'est pas rien. C'est même infini, comme la vie plus forte que la mort, libérée de toutes les morts et de leur puissance. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis de vous présenter cette lecture plurielle de la Passion. Vous trouverez les références musicales dans le PDF. Un grand merci à Micheline Burg, notre fidèle relectrice. Laissons maintenant le mystère être jusqu'au matin de Pâques et que la bénédiction de Dieu soit sur chacune et chacun d'entre vous. Amen.